seconde table ronde.
Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième table ronde de cette conférence éthique. On se pose cette question avec nos invités. La société est-elle en perte de repères ? On est en compagnie de Lionel Roch. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Vous êtes président directeur général de groupe Franco-Européenne. Bonjour à vous et bienvenue. Un mot de Franco-Européenne, qu'est-ce que vous faites ?
C'est un groupe que j'ai fondé en 97 et qui a quatre pôles. Un pôle événementiel, un pôle production de films, un pôle communication, relations presse, relations publiques et un pôle restauration avec un restaurant dans les Hauts-de-Seine et un restaurant à Genève.
Très bien.
Et ça fait 100 salariés.
Avec vous, on va se poser la question, à l'heure où les Français militent pour travailler moins, où est passée la valeur travail ? Vous avez commis un ouvrage, laissez-nous bosser, on en parle dans un instant.
Merci.
On est également en compagnie de William Lovenstein. Bonjour,
Bonjour.
Lovenstein, addictologue et président de SOS Addiction. On vous avait déjà vu sur ce plateau la dernière fois. Ça c'est le début de l'addiction. Hein,
de la dépendance.
Mais bon, c'est tous les 3-6 mois, donc. Ça devient,
disons
ça
que l'espace entre les prises laisse augurer d'une guérison possible.
Bon d'accord, mais on est ravis de vous retrouver en tout cas. Et puis Yves Rocotte, bienvenue à vous.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe et professeur des universités et auteur à succès, parce que voilà, quand on a des tirages à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, on peut dire que ça cartonne. Quel est votre dernier ouvrage ?
Alors le dernier, c'est l'obscurantisme vert. En fait, c'est l'histoire, c'est la véritable histoire de la condition humaine. Donc c'est une histoire que je raconte. C'est l'histoire de la planète, mais aussi bien sûr et d'abord avant tout l'histoire de l'humanité, du genre homo depuis 2,8 millions d'années et de l'humanité elle-même, de la seule espèce qui a survécu sur les 22, qui est la nôtre,
oui.
Que parfois certains appellent Homo sapiens. Donc ça, c'était le où j'expliquais aussi pourquoi devant nous un bel avenir s'ouvrait grâce aux technologies, grâce aux sciences, grâce à la créativité humaine. Et là, le prochain, il va sortir en janvier et ça s'appelle Aujourd'hui le bonheur, et c'est à la découverte du sens de la vie. Donc
d'accord.
Voilà, c'est avec une petite fille qui est là, parce que c'est l'histoire, je suis désolé, je prends la parole un peu trop longuement, c'est l'histoire en fait d'un vagabond que je rencontre à New York, qui me laisse ses carnets de voyage,
oui.
Et il me raconte comment il est parti de l'état de nature, en fait, de Delvaille en Afrique de l'Est, et comment il a remonté comme ça toute l'histoire des spiritualités. Donc il a pris l'Orient Express jusqu'au Japon, donc bouddhisme, hindouisme, shintoïsme, confucianisme, etc. Il est revenu à Jérusalem, comment là il a pris un autre train, qui est l'Occident Express, qui l'a amené jusqu'à Paris, ensuite le Mondial Express, et ensuite il est allé jusqu'à la Vallée du Miel, et il a découvert donc les quatre clés du bonheur, et la formule du bonheur qui tient en un mot. Donc c'est une histoire que je raconte, et dans ce livre-là,
oui.
Pour donner l'espérance, justement vous êtes bien dans le sujet, pour l'espérance un petit peu aux gens,
on va y revenir,
le sens des valeurs.
Et on aura un peu d'espoir. Alors on va donner la parole tout de suite à William Lovenstein, qui malheureusement ne pourra pas rester avec nous toute la séance, voilà, il est appelé, addictologue président de SOS Addiction. Addiction, quand la morale devient-elle immorale ? Pourquoi cette question ?
Parce qu'on applique une stratégie, une politique des drogues, une politique de santé des drogues, fondée sur la morale et qui donne des résultats immoraux, puisqu'elle est inefficace depuis un siècle, 50 ans. Je vais vous proposer une équation à une ligne. Je ne vais pas vous proposer une ligne, hein, mais une équation à une ligne et deux inconnus. D'un côté, le fait d'une société sans drogue. Est-ce que ça existe ? Notre ami Yves pourrait répondre.
On n'a jamais vu ça.
Ah, une société sans drogue, ça n'existe pas. De l'autre, les addictions. Les addictions qui menacent ce qu'aux yeux de beaucoup sont nos trésors les plus précieux, la liberté et la santé. Perte de liberté et dépendance qu'on évoquait. Santé, vous savez aussi qu'on réalise ce qu'on perd. Hélas, quand on le perd, que ça soit la vue, la marche, ou une fonction cardiaque, respiratoire normale. Comment une société sans drogue, ça n'existe pas ? Combattre les addictions, cette équation à une ligne, je ne vais pas dire deux inconnues, et tenter d'être résolue par la morale depuis déjà des décennies. On va commencer par la prohibition de l'alcool aux États-Unis, dont tout le monde connaît les grandes lignes. Notre futur ex-ministre de l'Intérieur, Retailleau, l'a d'ailleurs rappelé. Al Capone est tombé par ses erreurs comptables, mais surtout la prohibition de l'alcool aux États-Unis s'est arrêtée parce que les Américains, comme d'habitude, ont fait une évaluation, un constat d'échec, que ça coûtait cher, que c'était mettre les villes à la campagne et que ça marchait pas. C'est surtout l'échec, plus que l'arrestation du comptable, qui a permis l'arrêt de la prohibition. 68, on fait quelques décennies après, la révolte démocratique, il est interdit d'interdire la menace de la French Connection, qui faisait plutôt rire les Français jusqu'à la première overdose d'une jeune femme dans les toilettes d'un casino de Bandol en 69, nous conduit à une loi de 1970 qui nous gouverne toujours. Pensez que les problèmes d'addiction, que ça soit dans les entreprises, dans la rue, dans les villes, dans les campagnes, sont les mêmes en 2024 qu'en 1970.
Donc on a la même politique ou le même cadre juridique qu'il y a 50 ans.
On a plus de 50 ans. La même politique alors qu'on sait maintenant.
Qu'est-ce qu'il faut faire
en termes d'overview que pour résoudre cette équation à une ligne et deux inconnus, faut arrêter de se fonder sur la morale initiale. Que quand je dis la morale est devenue immorale, je pourrais citer même Blaise Pascal en disant la vraie morale se moque de la morale. Et de mettre en route les quatre piliers que l'on sait pouvoir être opérants. C'est-à-dire, oui, la répression, à condition qu'elle soit efficace, donc évaluée. Oui. Est-ce que le prix du gramme, par exemple, a augmenté ? C'est un chiffre économique qui nous intéresserait. Si on est efficace, qu'on va interdire quelque chose, plus c'est cher, regardez sur le tabac, c'est une des politiques retenues pour une drogue légale, moins il y a de consommation. Est-ce que le prix du gramme de cannabis, de cocaïne, d'héroïne a augmenté ces 30 dernières années ? Absolument pas. Il a même plutôt baissé et en gagnant en concentration. La répression, donc, à condition qu'elle soit efficace. La criminalisation des usagers, on le sait, est inefficace. Moralement parlant, elle est très très bien à exposer. Tout le monde adhère. Mais on n'adhère pas si on précise que dans notre PIB, on déclare nous-mêmes 3 milliards et quelques de chiffres de l'économie de la drogue.
Ah bon,
est-ce qu'on se dit complice de ça ? Est-ce qu'on tire une balle dans la tête d'un enfant de 5 ans quand on déclare dans notre PIB 3 milliards à quel d'économie de la drogue ? On a juste refusé l'économie de la prostitution, au contraire des Anglais. Donc la répression, à condition qu'elle soit efficace, la prévention, même réflexion, qu'est-ce qu'on fait passer dans la prévention avec l'évolution des mentalités, des développements actuels ? Est-ce que la prévention qui s'adressait aux enfants de 1970 ou aux salariés dans l'entreprise en 1980, a des chances de fonctionner à l'époque des réseaux ? Est-ce que Santé publique France, quels que soient ses efforts, a les mêmes moyens d'atteindre les jeunes ? Parce que c'est ça, évidemment, la cible préventive. Prévention, qu'elle soit efficace. Qu'est-ce qui nous reste ? La santé, la réduction des risques. La santé, l'addictologie est une science jeune. Elle est née à la fin du XXe siècle. Essayez d'imaginer ce qu'était la cancérologie ou la réanimation 20 ans après sa création. Donc, dans l'alphabet des connaissances, on est plus proche du D de doute que du T de tranquille. Mais à condition qu'on puisse continuer dans l'alphabet des connaissances à progresser, d'où le problème budgétaire. La réduction des risques, c'est la seule chose quasiment qu'on ait vu marcher ces dernières années. Depuis la mise en vente libre du matériel d'injection qui a sauvé la vie de milliers, dizaines de milliers de personnes grâce à Madame Barzac, en passant par les traitements de substitution, c'est la seule chose qui ait réellement été efficace, pour vous le dire comme ça, sur ces quatre piliers. Est-ce qu'on peut, pour conclure, essayer de se dire qu'un mot même pavé de bonnes intentions ne suffit pas dans une politique des drogues et dans ce que j'appelle la santé des addictions. Est-ce qu'on peut faire ce dépassement personnel, moral, pour se dire, comme Madame Veil l'avait dit il y a 50 ans sur la loi sur l'IVG, si une loi est à ce point contournée, c'est qu'elle est mauvaise. Et donc que nous dépassions notre morale pour aller chercher une protection au sens le plus pragmatique, pour pas dire anglo-saxon, de l'expression.
Alors la décision, elle est compliquée, puisqu'en plus on a plus de gouvernement là depuis ce matin, depuis 10 heures. Ouais. Réaction autour de la table, tiens.
Oui, une réaction. Je pense que là encore, les entreprises auront un rôle à jouer et que nos politiques l'oublient. Quand j'entends Bruno Retailleau vouloir éradiquer le trafic de drogue, il y a des dizaines de milliers, si ce n'est des centaines de milliers de jeunes qui vivent du trafic de drogue. Si on éradique ce trafic de drogue, ce qui est évidemment souhaitable, ça veut dire qu'il va falloir pouvoir les réintégrer à un moment ou à un autre dans l'économie réelle, et ça passera par les entreprises.
Le mot d'éradication, vous voyez, dans nos conceptions, le mot d'éradication, le mot de guerre contre la drogue, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la guerre contre la dépression ou de la guerre contre l'épilepsie. L'addiction, c'est une maladie fonctionnelle cérébrale. Pourquoi les termes de guerre, vous voyez, sont à ce point utilisés?
Peut-être plus contre le trafic.
L'éradication. Il y a une théorie qui a été très bien étudiée qui s'appelle la rhétorique du fléau. C'est-à-dire, en gros, quand on ne sait pas quoi faire, on éradique. Et après, le dévoiement, il est assez intéressant parce que la guerre à la drogue se dévoie en guerre aux drogués. Comme la guerre à la pauvreté peut se dévoyer en guerre aux pauvres. Je ne vais pas dire comme la guerre à l'immigration peut se dévoyer en guerre aux immigrés, mais c'est quand même un peu vrai. Et donc, partir sur l'idée de l'éradication...
Ah non, mais c'est pas moi, c'est moi. C'est les ministres qui veulent, et Darmanin aussi.
Alors qu'une société sans drogue, encore une fois, je vous l'ai fait valider, ça n'existe pas. C'est ça où la réduction des risques. C'est comme toujours avec cette morale, si on devait choisir entre le noir et le blanc. Et je reprends là la période de l'IVG, où il y avait des discussions intéressantes, notamment à l'époque avec des psys et des politiques. Notre problème dans la plupart des situations, c'est pas de choisir entre le noir et le blanc. Je vais pas dire n'importe quel imbécile pourrait le faire, c'est de choisir entre le gris et le gris. Ah. Non, et la réduction des risques, c'est cela.
Voilà. Donc, s'il y a moins de trafic de drogue, s'il n'y a plus une économie parallèle du trafic de drogue, oui, il va se poser la question de dizaines de milliers de jeunes, si ce n'est des centaines de milliers de jeunes, avec qui il va falloir trouver du boulot. Et évidemment que les entreprises, là-dessus, on se rappellera qu'elles existent. La deuxième chose, quand même, on s'aperçoit avec le trafic de drogue que quand il n'y a plus rien, en fait, se recréent des entreprises. C'est des entreprises illicites, c'est des entreprises qui ne payent pas leurs charges, mais en fait, elles sont structurées comme des entreprises, avec d'ailleurs des actionnaires, avec des patrons, des grands bonnets, et puis après, avec des salariés. Et donc, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que là où on critique toujours l'entreprise, où on pense beaucoup, d'ailleurs, le nouveau fond de gauche, M. Mélenchon, qu'il pourrait y avoir un monde sans entreprises, non, s'il n'y avait plus rien, se recréer des entreprises. Et dans les banlieues, se sont créées des entreprises, et même de très grosses entreprises, avec des investisseurs, avec des partenariats, avec des coûts. C'est évidemment pas un exemple à suivre, mais l'entreprise et tout se structure autour d'une entreprise.
Donc, sauf qu'elle échappe, cette entreprise, contrairement à l'entreprise classique, à toute la ponction de l'État.
Évidemment, elle échappe à la ponction de l'État, elle respecte pas les règles, elle a pas de ressources humaines, elle a pas de charges, et elle vend un produit interdit. Donc, effectivement, c'est tout mauvais. Mais c'est la structuration qui est intéressante.
Alors, un mot de conclusion, puisque vous allez nous quitter bientôt. On a compris le constat assez implacable.
Qu'il est temps de changer de logiciel. Je pourrais reprendre tous les mots médiatico-politiques actuels et vous faire sourire. J'ai envie de dire, il est temps de refaire passer dans le trou de la raquette le salon dans la pièce et de changer de logiciel en s'appuyant sur le bon sens commun pour éviter la narco-cata. Voilà. Une fois que j'aurai dit ça, on n'aura rien dit. Je vous donne ma conclusion d'une expérience clinique. Soyons modestes sur cette équation à une ligne et deux inconnues. Essayons déjà de réduire les risques, parce que depuis un siècle, et plus particulièrement depuis cette loi du 31 décembre 1970, quand normalement nous devions protéger et les personnes et la société, le résultat est l'inverse. Je le redis, la prohibition était une mauvaise politique. Beaucoup lui auraient pardonné si elle avait réussi. Ce n'est pas le cas. Il faut lui associer la prévention, le soin et la réduction des risques. Et je vous prie de m'excuser, je vais me sauver pour dire la même chose à l'Assemblée nationale.
Bah merci en tout cas.
Sachant que je ne serai peut-être pas plus écouté. Mais je vous remercie.
Vous, on vous a écouté.
Alors, nous, on vous a écouté, les spectateurs aussi. Et puis, effectivement, les députés sont encore là, eux, même s'il n'y a plus de gouvernement à l'heure actuelle. Merci, William Lovenstein. Je rappelle que vous êtes donc addictologue et président de SOS Addiction. Lionel Roch, on va montrer votre ouvrage à la caméra. Laissez-nous bosser. C'est un bouquin qui a fait grand bruit à sa sortie. C'était il y a combien de temps ?
Il est sorti fin février de 2024 et il a une petite histoire, c'est-à-dire qu'en juin 2023, j'ai écrit au président de la République une lettre pour lui dire « Attention, toute l'économie est en train de se bloquer et les chefs d'entreprise sont fatigués, nos salariés sont stressés et il y a une France qui bosse, on va y venir, il y a une France qui bosse dur et il faut impérativement qu'elle gagne plus, mais nous, on ne pourra pas les payer plus cher parce qu'il y a ce système français fabuleux, c'est-à-dire qu'avec le niveau des cotisations patronales et des charges salariales, nos salariés ne gagnent pas assez et nous coûtent trop cher, pour faire simple. » Je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu et je pense que la lettre était intéressante. Là-dessus, les éditions de l'Observatoire m'ont contacté pour me dire « Attendez, on vous a vu, je ne sais plus, sur contre la semaine des 4 jours, on y reviendra. Et ça nous intéresse, on voudrait que vous fassiez un livre. Le livre est une expérience d'un entrepreneur de terrain qui dit « Voilà comment ça se passe sur le terrain. » Comme j'interviens sur différents secteurs avec je travaille pour les grosses entreprises, on travaille pour les PME, et puis on a tous les plaisirs de la restauration. Donc ça nous permettait de voir le terrain. Et donc c'est un témoignage et une balade à l'intérieur des délires bureaucratiques.
Ouais. Le sous-titre, le coup de gueule d'un patron de PME contre les aberrations du monde du travail. Et on est ravis d'accueillir à nouveau Sophie de Menton autour de la table pour justement commenter, parce que ça va vous plaire, ça, Sophie.
Ah bah ça me plaît énormément, ce bouquin.
Laissez-nous bosser avec des titres assez chocs, hein, bien trouvés. L'ennemi a un nom, l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'est vrai. Et peut-être, tiens, on va commencer. Enfin, les racines du mal, c'est quoi ?
C'est
l'État. Parce que pourtant... on sait que les gens qui sont en entreprise aiment leur entreprise, grâce à votre excellente initiative. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourquoi on a l'impression d'une fracture, effectivement ?
Alors, je crois que... je réponds, mais il complétera bien sûr Lionel. Je pense qu'on me l'a expliqué, parce que j'ai beaucoup demandé. C'est notre histoire. Nous sommes un pays, et j'ai des hommes suffisamment cultivés à côté de moi pour le confirmer. C'est l'État qui nous constitue. C'est vraiment la colonne vertébrale du pays. C'est pas comme dans d'autres pays, en particulier anglo-saxons, etc. L'État nous constitue et c'est tellement ancré dans notre ADN qu'il a pris une place qu'il ne devrait plus avoir. Et on a beau râler sur tout ce qui se passe, nous demandons, nous, entreprises, des aides pour récupérer l'argent qu'on nous a piqué par ailleurs. Ça, c'est vrai. Mais nous demandons des règles, des lois sans arrêt, malgré nous, et c'est là la racine du mal. Donc c'est compliqué, mais ça, peut-être que vous avez la solution. Comment est-ce qu'on se désintoxique de, effectivement, cette drogue étatiste ?
C'est bien, parce qu'en plus, vous avez pris la place de William qui a l'excellente transition, quel
absolument.
Talent.
Absolument.
Simplement, peut-être un mot pour aller dans le même sens. Oui, c'est vrai que on a dans l'histoire de France quelque chose qui s'est passé, qui est un événement considérable, c'est l'échec des Frondes. Il faut comprendre qu'il y a eu ces deux processus absolument identiques du côté du Royaume-Uni et du côté français, mais qui ont abouti à deux résultats totalement contraires. Oui. C'est-à-dire, du côté anglais, en fait, en quelque sorte, les Frondes, l'équivalent des Frondes, a réussi. C'est-à-dire que le Parlement a repris le pouvoir, l'absolutisme a été battu. Tandis qu'en France, c'est le contraire. L'absolutisme a gagné et on a éliminé les corps intermédiaires. Et là, le culte de l'État, qui avait commencé en fait avec Philippe le Bel, mais là, qui vraiment s'est développé à ce moment-là, a été l'échec de ces corps intermédiaires et la construction d'un État très fort qui fait que, même dans nos imaginaires, français, quand on pense quelque chose, on dit « mais que fait l'État ?» que va faire l'État. Oui, c'est presque vrai. Un réflexe qui tient à la construction de cet imaginaire qui est quand même, vous voyez, qui a plusieurs siècles et dont il est absolument difficile, évidemment, de se débarrasser. Excusez-moi d'avoir répondu pour vous.
Non, mais... non, pas du tout, parce que, justement, vous amenez l'histoire. Bon, d'abord, quand même, depuis 45, il y a un petit fond marxiste qu'on retrouve dans l'éducation nationale, qu'on retrouve pas mal dans les médias, qu'on a chez nos intellectuels.
À l'endroit de l'entreprise
et dont l'entreprise est énormément critiquée. Et tant d'ailleurs qu'on ne récupérera pas le narratif, on aura un problème. Nous avons, moi j'ai été élevé, dans les années 70, je suis cinéphile, j'allais voir les films de Chabrol, sur lesquels le patron était forcément le salaud. Et ça a continué, et ça continue.
Le patron.
Et ça continue encore. L'entreprise est forcément mauvaise. Est-ce que, là où les Français sont quand même admirable, c'est que globalement, l'entreprise a une bonne image, les entrepreneurs ont une bonne image, les Français croient dans les PME beaucoup plus qu'ils croient dans les politiques. Mais dans des stades, si on leur dit en qui vous avez confiance, les PME, je crois, c'est 75%, les politiques, c'est 11%. Et les journalistes, ça doit être 9%. Et c'est assez admirable...
82%.
Oui, 82%, vous voyez. Et c'est assez admirable que les Français arrivent à résister contre ce entreprise bashing. Et alors, pour faire simple, l'entreprise, c'est pas bien. L'entrepreneur est un salaud et le salarié est un collabo. Une fois que j'ai dit ça,
et
c'est comme ça.
Il ne faut pas gagner de fric.
Voilà, il ne faut pas gagner de fric. Mais en revanche, on fait appel aux entreprises dès qu'on a besoin de financer les JO, dès qu'on a besoin de Notre-Dame. Et d'ailleurs, les JO ont fonctionné parce que quand même, les entreprises ont donné beaucoup d'argent. Et c'est nos milliardaires qui ont fait que M. Macron a pu aller inaugurer Notre-Dame. Donc, on a un problème de narratif, puis après, on pourra revenir sur la valeur travail, c'est-à-dire qu'il s'est passé dans les années 2010 cette espèce de folie où on a un peu perdu pied d'une nouvelle économie où des GAFA faisaient fortune, où un euro investi chez Apple faisait quasiment un million, sur un jeunisme sur lequel les jeunes avaient raison et toute personne de plus de 50 ans avait tort. Et c'est vrai qu'à un moment, on a un peu perdu pied. La Startup Nation, là-dedans, est arrivée, qui est un concept qui est fou, mais à un moment, on s'est laissé impressionner.
Pourquoi c'est fou ? La Startup Nation, c'est pas bien ?
Si vous voulez, la Startup Nation, une startup, qu'est-ce que c'est que l'économie des startups ?
C'est pas une entreprise.
D'abord, c'est pas une entreprise. Et deuxièmement, le concept est complètement dingue. C'est-à-dire que vous avez 1000, vous mettez de l'argent sur 1000 entreprises et il y en a une qui va s'en sortir, mais vous gagnerez tellement d'argent que ça devra compenser les 999 autres pertes. J'ai peur que notre pays ne fonctionne pas comme ça et j'espère que notre économie ne fonctionne pas comme ça. Donc ce concept de la Startup Nation était fou. Et puis après, on est arrivé dans un séquençage terrible, c'est le quoi qu'il en coûte, qu'il fallait évidemment faire, mais on aurait dû expliquer pourquoi. C'est-à-dire que les entreprises sont tellement importantes dans notre pays qu'il fallait impérativement qu'elles ne meurent pas. Mais ça, on a oublié de nous l'expliquer, on a dit, oh ben, quoi qu'il en coûte. Et derrière, Emmanuel Macron a prononcé, alors je ne suis pas là pour dire du mal du président de la République, d'autres s'en chargent très bien. Mais derrière ça, il y a eu le monde d'après. Et quand vous avez un quoi qu'il en coûte et le monde d'après, tout le monde a compris qu'en fait, c'était ne pas travailler avec l'État qui donnait de l'argent. Et là, on est rentré dans une spirale infernale et tout le monde a été perdu, dont les chefs d'entreprise qui ont quand même vécu une... On a eu un moment où on s'est dit, nos entreprises vont mourir. Et nos salariés qui sont fidèles à nos entreprises se sont dit, mais on va peut-être mourir, donc on a été déstabilisé. Et puis après est arrivé le télétravail généralisé, soutenu par l'État, qui trouvait ça fabuleux. Après, la semaine de 4 jours, le droit à la paresse. Et là-dessus, eh ben, il fallait essayer de résister, mais on a eu un petit flottement. Le flottement, à mon avis, est en train de se terminer. Il va falloir redescendre vite dans la vraie vie.
Oui, parce que là, on est quand même entre crise économique, crise politique, c'est un petit peu compliqué cette fin d'année.
Ça va ensemble.
2024.
Hein. Parce qu'on n'aurait pas de crise économique. La crise économique, elle est liée au monde politique. Elle est directement liée. Mais d'ailleurs, si, que ce soit d'ailleurs les guerres, parce que les guerres, c'est politique, que ce soit la politique étrangère, et.
Vous sentez qu'on a eu un coup d'arrêt avec cette dissolution, par exemple, à partir de juillet, on a eu un.
Alors, on a eu
on était déjà
dans un coup d'arrêt qu'on a eu. C'est... Alors là, alors, permettez-moi.
Attendez, Lionel, peut-être sur le terrain.
On a eu un coup d'arrêt, mais un coup d'arrêt, c'est-à-dire que les décisions ont été gelées. C'est-à-dire qu'on n'a pas bougé. Donc, ça n'a pas encore été tout de suite le vrai problème de boîtes qui disparaissent. Là, ça a attendu un tout petit peu, mais maintenant, c'est les commerces qui ferment. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs partout, regardez ceux qui nous écoutent dans vos rues, dans vos villes. C'est incroyable, les rideaux qui se baissent. Donc, oui. Et alors, d'ailleurs, pardonnez-moi, je reviens dessus, puisqu'on parle des boîtes qui disparaissent. Que le gouvernement fasse une campagne qui s'appelle l'ADEME, il faut le répéter, j'ai déjà dit tout à l'heure, et qui dise, on a un mec à l'écran qui est un déconsommateur.
Un dévendeur.
Qui dit, mais monsieur, un dévendeur, qui dit, mais monsieur, elle est très très bien votre veste. Vous n'allez pas acheter une neuve. Déconsommer, vous n'allez pas acheter neuf quand même. Le gouvernement fait cette publicité sur les écrans de télévision aujourd'hui, alors que c'est la période de Noël pour les commerçants, que nos usines fabriquent, que nos marques ont besoin d'exemples. Je m'en remets pas.
C'est une honte et j'en parle dans le livre. D'ailleurs, je parle de la campagne de l'année dernière. Oui, et si vous voulez, quand j'ai vu que ça recommençait, pour dire vrai, je me suis dit, le gouvernement Barnier, c'est quand même pas gagné. Comment un Premier ministre qui était censé être de droite peut laisser valider ça, sur lequel on ne dénonce pas le commerce en ligne, on dénonce le commerce physique de quelqu'un qui rentre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le commerce, c'est pas bien. Ça veut dire que vendeur n'est pas une bonne profession. Il faudra être dévendeur. C'est une honte. Et tant que nos dirigeants feront ça, et je le dis dans le livre, j'imagine le gars, le commerçant en train de payer, de faire sa déclaration pour payer ses charges salariales, ses cotisations patronales, et qui fait ça devant sa télé, le tout à 23h parce qu'il y a une telle paperasse, et qui fait ça devant sa télé, et qui voit la campagne de pub financée par le pognon qu'il est en train d'envoyer.
C'est une honte. Et tout ça, c'est pour les... Alors, disons pourquoi. Il faut déconsommer à cause de l'écologie. Mais c'est la meilleure façon d'avoir une écologie positive et pas crédible. Et d'ailleurs, c'est pas mon voisin qui dira le contraire. Enfin, est-ce qu'on va sauver la planète en n'achetant pas...
En achetant sur Shine, sur des fringues
en plus,
faites en Chine,
bien sûr.
Qui peuvent ne pas plus être recyclées, ce qui fait qu'on ne peut plus faire la collecte des vêtements parce que les vêtements Shine sont de tellement mauvaise qualité qu'on ne peut pas les recycler. C'est cette folie, et on en a beaucoup eu, et M. Macron en a beaucoup rajouté
Que je voudrais rajouter là-dessus, le diable est dans les détails. C'est-à-dire que vous aurez des gens, des ministres, très bien, qui vous diront non mais ça, et plus personne ne sait qui a pris la décision, plus personne ne sait comment arrêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire stop, pas de campagne gouvernementale? Alors, si personne n'est capable de le dire, c'est que c'est effroyable. Si le Premier ministre dit j'ai autre chose à faire, c'est dramatique. Et quant au Président de la République, je ne sais plus quoi dire.
Et quand vous doublez le malus écologique, sachant sur l'automobile, sachant que l'automobile est totalement détruit, les constructeurs européens, et que donc seuls les Chinois pourront en tirer profit, et on fait ça à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on rajoute une petite touche en disant, nous, on va. Mais tout est de la folie. Et il y a un moment, et on sait maintenant qu'il y a la chute du gouvernement, il va falloir que Emmanuel Macron envoie un signal clair dans le choix de son Premier ministre. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il est pro-entreprise? Je ne parle pas pro-business, je ne parle pas de politique de l'offre, c'est mot savant. Est-ce qu'il est conscient qu'il a besoin des entreprises? Ou est-ce qu'il pense qu'il va pouvoir continuer à se débrouiller avec un État qui en est à 3300 milliards, qui montre tous les jours qu'il est incapable de faire face à ses missions, c'est-à-dire à son boulot, et que donc ça serait les entreprises qui devraient payer, alors qu'ils n'ont même pas trouvé pourquoi ils en sont à ce niveau-là. C'est-à-dire que...
Une réflexion, il faut vraiment mettre le doigt dessus. Il faut que le président de la République, dans son choix d'un Premier ministre, montre par un signe fort, je ne sais pas comment, que ce nouveau gouvernement sera pro-entreprise. Ce que vous venez de dire est très important.
Alors ça tombe bien, puisqu'on sait ici, sur ce plateau, qui est le nouveau Premier ministre. Sophie de Menton, vous avez des...
On a beaucoup dit que ce serait l'actuel ministre des Armées. C'était Bruticourt. Sébastien Lecornu.
Est-ce qu'il est pro-business, Sébastien Lecornu? Vous le connaissez?
D'abord, pro-business, vous avez eu raison, Lionel, de le dire, c'est pas pareil que pro-entreprise.
Non, non,
on peut faire du business sans entreprise.
Alors, pro-entreprise, est-ce qu'il va aider les entreprises? On rappelle que l'entreprise en France, hein, c'est vrai qu'on a l'image, et souvent on tape sur les grands patrons du CAC 40, qui ne sont que 40 entreprises, même si ça fait des centaines de milliers de gens à travers le monde.
Il y a le 120 qui est pas mal non plus.
En France, plus de 90%, c'est des petites entreprises.
2,5 millions de PME qui font la France, d'artisans remarquables, de commerçants, toute l'énergie du pays, ce sont eux.
Qui sont d'ailleurs en connexion avec les grands groupes. Hein. C'est-à-dire que quand ils veulent taper sur les grands groupes en pensant que ça n'a pas de conséquences sur les PME,
c'est une erreur absolue. C'est une erreur fondamentale. Mais alors, je voudrais en revanche qu'on arrête aussi de taper sur le CAC 40. Je veux dire, que ce soit Total qui devient l'objet de toutes les haines et qui perd de l'argent uniquement en France à cause de la conjoncture du pays alors que ça marche ailleurs, qui devrait d'ailleurs aller à la bourse de New York parce que ce serait beaucoup mieux pour lui. Enfin,
on sait la suite, c'est-à-dire qu'après ils délocaliseront le siège social.
Peut-être pas quand même, LVMH, mais bravo, on a la plus grande marque qui nous représente mieux la France à l'étranger, ce sont les marques de LVMH. Mais qui reconstruisent Notre-Dame.
Tout est faux dans leur raisonnement. C'est-à-dire que quand Michel Barnier disait, et quand les suivants vont faire encore pire, hein, c'est-à-dire, on va aller prendre 8 milliards à nos grands groupes d'impôts. Non, ce qu'il faut, c'est que nos grands groupes, on leur parle gentiment, poliment, pour qu'ils investissent plus en France. On a un problème, c'est que les groupes français n'investissent pas assez en France. On peut comprendre, hein, puisque il suffit d'écouter Lucie Castet pour comprendre pourquoi vous avez envie d'investir à l'étranger. Mais Emmanuel Macron a toujours oublié de nous dire toute la partie de l'histoire, c'est qu'effectivement, les groupes étrangers investissaient en France, mais les groupes français investissaient deux fois plus à l'étranger. On a besoin que nos groupes français investissent plus. Les 8 milliards, on n'a pas besoin.
Mais est-ce que c'est possible, quand on voit justement, vous le disiez en introduction, que finalement, ça coûte de plus en plus cher de payer un salarié qui lui-même ne s'y retrouve pas?
Oui, je suis d'accord.
C'est là où il y a un sujet.
On a besoin que nos grands groupes investissent en France. Il manque absolument d'investissement en France. Donc il faut leur demander poliment, gentiment. A priori, quand j'écoute Bernard Arnault, j'ai l'impression qu'il est aussi patriote que nous autour de la table. Donc il est prêt. Mais quand il se fait insulter régulièrement, que chaque fois que Lucie Castet expliquait qu'elle allait les tondre, elle avait sa tondeuse qui était prête, que Michel Barnier explique qu'il a trouvé 8 milliards sur 400 entreprises. Mais on sait que c'est faux, il les aurait jamais eu, et de toute façon ça aurait creusé un trou encore plus important parce que les entreprises auraient coupé les investissements. Les investissements sont à l'arrêt aujourd'hui.
J'ai un auditeur qui me dit que l'ADEME est une agence indépendante dont les écolos ont pris le contrôle.
Oui, sauf qu'elle est financée par l'État.
Bien
sûr, et que c'est le ministre de l'écologie, je sais plus comment il s'appelait, qui a de l'environnement, qui avait accepté et validé la campagne.
Et donc, ça veut dire qu'on n'ose pas et on ne sait pas ou on ne veut pas aller contre un ministre qui décide de cette campagne.
Mais Sophie de Menton, Lionel Roch, on parlait de Fronde tout à l'heure avec Yves Rocotte qui vous attend, qui vous entend, qui vous écoute attentivement. Yves, on va le laisser parler également. Peut-être commentaire ou parce que on avait un sujet. Le monde est vraiment dans le réel et avec vous on était plutôt sur la découverte du sens de la vie.
Oui, parce qu'en fait, justement, vous rappelez, c'est ce livre-là. D'ailleurs, vous l'aviez à Éthique, l'avait présenté et ce livre. Voilà, justement, une réaction, mais une action contre un mouvement, justement, qui est un mouvement profond, pas qu'en France, mais en France, qui est très visible, de défaite de la pensée et pour le dire très clairement, de désespérance de la population. Il y a quand même quelque chose de frappant, c'est que on a réussi un tour absolument incroyable, c'est qu'il y a encore 40 ans, la jeunesse, d'accord, elle pouvait délirer sur la Révolution, sur le temps des fleurs, tout ce qu'on voulait, mais elle espérait quelque chose. elle croyait en quelque chose. Tandis que là, on a une sorte de désespérance qui arrive, on le voit dans les sondages, on le voit
construit dans les votes. C'est la fin des utopies, en tout cas.
Pardon ?
C'est la fin des utopies.
C'est la fin de ça, mais c'est surtout le début d'une idolâtrie, des idolâtries et d'une culpabilisation monstrueuse qui fait que la jeunesse ne croit plus en rien, sinon en la planète qui est en train de brûler, qui souffre, Gaïa qui souffre. Et puis on voit qu'il y a une sorte de rencontre, et là je crois que c'est très important, ça rejoint ce que vous disiez, il y a une sorte de rencontre idéologique, culturelle, qui a produit à la fois cette écologie punitive et ce wokisme. C'est-à-dire qu'en fait, les deux, on ne comprend pas très bien souvent, mais d'ailleurs je l'expliquais dans le livre de manière simple, puisque c'était... j'ai essayé de faire un livre facile à lire, L'obscurantisme vert. Il y a une rencontre parce que d'un côté, on nous explique que la planète a connu un réchauffement jamais vu à cause de l'industrie, à cause de la croissance, à cause du capitalisme. Et de l'autre côté, on a tout un mouvement qui dit oui, et ça, ça a commencé avec la naissance de la révolution industrielle, qui a fait la colonisation, qui a fait la misère ouvrière, qui a fait, etc. Donc, effaçons cette histoire, recommençons l'histoire, etc. Et on serait responsable du colonialisme, du racisme, etc., comme si ça n'avait jamais existé avant, etc. Bref. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, je vous dis ça parce que, évidemment, ça va dans votre sens, et c'est pas pour rien que vous avez raison de défendre l'entreprise. D'abord, le mot entreprise vient d'entreprendre. C'est l'idée, justement, derrière, de créer quelque chose, d'innover, d'aller en avant, pas de recycler, et pas d'être, de recycler les mêmes choses, et pas d'affréner ou de faire la décroissance. Mmh. Or, moi, ce que j'ai dit dans l'obscurantisme vert, ce que j'ai démontré scientifiquement, et encore une fois, je crois, de manière simple à lire, parce que je voulais que, justement, pour ça que ça s'est vendu autant, je voulais que ce soit facile pour tout le monde. Et il y a des gens qui m'ont écrit en me disant « Vous nous avez redonné la joie, je peux enfin parler à mes enfants, etc. » Parce que je crois que c'est fait pour ça. Il faut bien comprendre que ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai dit, ce que j'ai démontré, c'est qu'en fait, ces idéologies-là, vous voyez, on est comme une cité attaquée de... Oui, imaginez Paris,
citadelle on est attaqué
par la porte d'Orléans, par la porte par la porte Maillot, etc. Il y a toutes ces mises en cause. Et ce que j'ai démontré, c'est que, en faisant l'histoire de la planète depuis 4,5 milliards d'années, donc si vous voulez, c'est pas, vous voyez, clairement...
C'est vrai, Yves, je vous arrête parce que, en même temps, je vais me faire l'avocat du diable, est-ce qu'on n'est pas dans une hyperconsommation qu'on n'a jamais connue dans l'humanité ? Et pour cause. Et cette hyperconsommation, on a également, et d'ailleurs j'ai défendu et préfacé un livre qui défend le plastique aussi, le plastique bashing de Joseph Taïafé, parce que oui, on peut pas se passer du plastique dans les hôpitaux, oui, on a du plastique, nous, qui est du bon plastique et qui a du mauvais plastique, donc toutes nos lois en France sont ridicules, mais je suis quand même sceptique. C'est vrai que cette hyperconsommation est folle. Et alors, est-ce que, Yves, il n'y a pas un moment quand même où ça nuit un peu à la planète ?
Alors, d'abord, première chose, l'idée d'une hyperconsommation, moi, je ne partage pas cette idée. Oui. Je pense qu'on est en sous-consommation. Et je pense qu'on le sera, j'ai envie de dire, définitivement et infiniment. C'est-à-dire qu'on sera toujours en sous-consommation de produits qui arrivent, qui vont arriver, d'une offre qui est toujours nouvelle, avec la créativité qui est là, qui va développer à nouveau notre désir, parce qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes des êtres de désir. Et qu'en réalité, ce désir-là, c'est justement une des clés. C'est pour ça que je suis pour l'entreprise à fond. Parce que justement, l'entreprise, c'est le lieu où on permet à l'humanité de développer ses envies, ses désirs, sa puissance, de faire reculer la mort, de faire reculer la misère. Et chaque fois, à chaque avancée, évidemment, ça correspond aussi chez nous à des nouvelles demandes. Et donc, il y a une dynamique comme ça de croissance qui est en marche depuis le paléolithique. Alors, je m'arrête simplement sur un tout petit fait. Il faut vraiment qu'on comprenne une bonne chose. Et là, c'est scientifique, je dis ça parce qu'il y a 1200 physiciens chimistes qui ont signé une pétition derrière un prix Nobel de physique, là, il y a en 2022, qui racontent la même chose que moi, maintenant. Donc, si vous voulez, vous voyez, c'est pas pour rien. Et il y a le dernier prix Nobel de physique qui dit la même chose que moi,
enfin, en disant,
c'est eux qui disent la même chose, parce que je l'ai dit en premier, mais bon, qu'importe. Moi, je suis épistémologue, je suis spécialiste surtout des nouvelles technologies, des biotech, des nanotechnologies, etc., l'intelligence artificielle, mais qu'importe. Ce qu'ils disent, qu'il n'y a pas d'émergence, il n'y a pas d'urgence climatique. Ça, c'est une bilvesée. Il faut bien comprendre que depuis 4,5 milliards d'années, nous avons aujourd'hui 15,5 degrés sur cette planète. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Nous n'avons jamais connu des périodes entre guillemets aussi froides depuis 4,5 milliards d'années, hors glaciation évidemment. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Par exemple, notre humanité, enfin le genre humain qui est né il y a 2,8 millions d'années, il a connu plus de 10, 12, 13, 14 glaciations, dont 7 monstrueuses, avec des réchauffements violents. Nos ancêtres, par exemple là, on est dans une période qu'on appelle l'Holocène. C'est une période interglaciaire qui a commencé il y a 11 700 ans et qui va bientôt se terminer d'ailleurs. Bon, ça, c'est une autre affaire. Eh bien, avant cette période-là, on avait ce qu'on appelait l'Émien. Il faisait 4 à 5 degrés de plus qu'aujourd'hui. Voilà, je pourrais m'amuser en disant que les dinosaures vivaient à 30 degrés centigrades en moyenne.
Oui, mais alors, si on est 15, revient, on est 15, si on revient non, à notre consommation.
Non, non, on va y revenir. Non, mais moi, je parle du fait aujourd'hui, oui, de ce qu'on vend à la jeunesse et ce qu'on vend contre les entreprises au nom de la transition écologique.
C'est vrai.
Moi, c'est ça que je fais. C'est pour défendre les entreprises que je dis ça. Parce que je crois aux entreprises. Il faut bien comprendre, par exemple, qu'au Moyen-Âge...
Il faudrait bien revenir à la surconsommation quand
Moyen
même.
Âge, au Moyen-Âge, on consommait beaucoup moins qu'aujourd'hui et il faisait beaucoup plus chaud, d'accord ? Beaucoup plus chaud c'est qu'aujourd'hui. Vrai. Puisqu'on au Groenland, même, il y avait deux tribus... Oui, il y avait deux tribus qui cultivaient et qui faisaient paître des troupeaux. Donc, si vous voulez, et on cultivait les vignes dans le nord de l'Europe. Donc, si vous voulez, et alors je ne parle pas d'il y a 4200 ans où carrément il y a la sécheresse qui a tellement été épouvantable qu'elle a effacé la civilisation d'Akkad.
Donc, on ne doit rien faire.
C'est pas ça le problème. Simplement, la question, si vous voulez, il y a de la pollution. Il y a des problèmes scientifiques. Oui. La question est de savoir comment on les règle. Et moi, je dis qu'on règle en libérant la créativité des entreprises.
Avec le progrès.
En libérant la créativité des scientifiques. Non pas en les freinant. Voilà ce que je dis. Je sais bien qu'il y a des problèmes. Évidemment, il y a toujours eu des problèmes. Mais avec ce système de prévention, etc., on aurait interdit le feu, la découverte du feu, à nos ancêtres dans la prévention. Ça va faire des incendies, etc. Évidemment, ça fait des incendies. Bon, on peut aussi essayer de prévenir. Je termine simplement sur un
terminé, et puis après, parce que...
Vous voyez, dans le livre, là, l'obscurantisme vert... Le bonhomme, qui est le penseur de Rodin, il est assis sur une planète bleue, pas verte, bleue. Pourquoi elle est bleue, la planète ? Pourquoi elle n'est pas verte ? Elle est bleue parce qu'on peut brûler toutes les forêts de la Terre, ça ne changerait rien en termes de gaz à effet de serre. Il faut comprendre en effet que le véritable phénomène physique, c'est que les arbres prennent du CO2, mais quand ils meurent, ils le rejettent. Donc l'équilibre, c'est pour ça qu'en Amazonie, il y a un équilibre. Tandis que la mer, elle, il y a effectivement... elle bouffe, je ne vais pas discuter scientifiquement trop longtemps, parce qu'après, ça m'énerve effectivement trop loin, mais il bouffe en effet le CO2 et il recrache de l'oxygène. Je vais terminer simplement sur un point. Les sciences, les biotechnologies, les nanotechnologies, aujourd'hui, permettent d'affronter tous les problèmes que nous connaissons. Il faut bien savoir, même le CO2 est transformé aujourd'hui en énergie. Il faut comprendre que nous sommes au début d'une formidable révolution. Le début, nous avons mis le petit pied sur l'Himalaya. Nous commençons à comprendre que l'énergie est infinie. Non, nous ne manquons pas d'énergie, elle est infinie. Nous sommes entourés d'atomes et les nanotechnologies, elles utilisent l'infiniment petit pour construire du graphène, quantité de nouveaux matériaux, etc., qui, en plus de ça, entre parenthèses, sont sans pollution, sans déchets, sans rien. Les nanotechnologies, c'est un truc. Moi, je suis spécialiste des nanotechnologies. Je trouve ça merveilleux, admirable.
C'est vrai, tout ça est
vive
vrai.
Vive les entreprises et il faut arrêter, l'histoire de transition écologique parce que ça, en fait, on nourrit, on biberonne l'imaginaire
Le résultat, c'est que c'est vrai, il y a une désespérance totale. On ne fait plus d'enfants. Et il n'y a pas qu'en Occident, c'est dans le monde entier, on ne fait plus d'enfants. Donc il y a une forme de désespérance.
On ne fait plus d'enfants aussi parce qu'on a une société du moi-je. Et en fait, dans le moi-je, effectivement, d'avoir des enfants, ça veut dire que vous n'irez pas sur les rooftops de la Bastille boire des margaritas et que ça veut dire que vous allez faire des efforts. Toute notre société, d'ailleurs, est une société du moi-je, de l'individualisme forcené. Maintenant, plusieurs réactions en tant qu'entrepreneur. Hein, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas Sandrine Rousseau, je n'ai pas un avis sur tout, mais j'ai quelques convictions. Une conviction, la bureaucratie ne règle jamais rien. Elle ne réglera pas plus le dérèglement climatique qu'elle peut régler quoi que ce soit. Ça, il faut en être conscient. La deuxième chose, c'est qu'on stresse nos enfants en leur envoyant un message qui est « la planète brûle ». les vieux en sont responsables et vous allez vous démerder avec ça.
Ouais.
Le tout en leur laissant croire une histoire folle, c'est que il faudrait qu'ils ne travaillent pas. Donc, puisqu'ils ne vont pas entretenir quand même cette folie. Mais en même temps, ils auraient une retraite à 60 ans et ils feraient jouer le droit à la paresse. Alors, il y a des choses qu'on sait faire. Une décroissance, si on renonce aux retraites, si on renonce à plein de choses, on doit pouvoir y arriver. Une retraite même à 62 ans, si on a une politique de la croissance absolue et tout, on doit pouvoir y arriver. Mais un truc qu'on ne sait pas faire, c'est faire et de la décroissance et de la retraite à 60 ans.
Et le
droit à la paresse et la croissance. Évidemment qu'on a besoin des entreprises parce que je ne sais pas sur le dérèglement climatique. Par contre, sur les conséquences du dérèglement climatique qu'on peut avoir, ça veut dire du pognon. C'est-à-dire que l'État a besoin d'argent.
Bien sûr.
Il a besoin d'argent, ne serait-ce que pour acheter, par exemple, des Canadair. Parce qu'il y a des incendies, il y a besoin des Canadair. Et l'État a besoin d'argent pour plein de choses. Et ce sont les entreprises qui peuvent lui donner de l'argent. Mais on en donne déjà la moitié. C'est-à-dire, pour faire simple, si vous voulez, une entreprise, c'est 50%, donne 50% de sa richesse. Nos salariés se lèvent le matin plutôt plus pour l'État que pour eux, si vous prenez cotisation patronale, charge salariale, impôts avec leur boulot. Donc, on est arrivé à l'extrême limite et on est même déjà trop haut. Donc, il va falloir faire une politique pour que les entreprises puissent travailler, créer de la richesse, redonner du sens, mais on en donne déjà plutôt plus que ce que peut donner la fonction publique. Je connais plein de salariés qui sont plutôt contents de leur travail. Je connais assez peu de fonctionnaires, hélas, qui me disent « Ah ben, j'ai un super patron, c'est l'État. J'en connais pas. » Donc
les hôpitaux, quand même. Les hôpitaux,
hôpitaux sont fiers de ce qu'ils font. Mais vous dites jamais, ah ben,
ah,
le patron,
c'est
ah non,
clair.
Non, je n'ai pas dit, il y a des policiers qui font d'ailleurs un boulot essentiel, il y a des professeurs qui font un boulot essentiel, tout, mais jamais ils vous disent, oh non, mais moi j'ai un bon patron et puis c'est bien organisé, parce que l'État n'est pas bon. Il va falloir que l'État fasse ce qu'on fait depuis 30 ans, ça fait 30 ans qu'on s'adapte dans les entreprises, les grosses comme les petites, à tout ce que l'État a décidé. De hausse, de bureaucratie, tout. Et on est encore vivant. Et l'État, lui, ne s'adapte jamais à rien. Et d'ailleurs, Michel Barnier arrive et dit « Ah ben, on va commencer par faire des hausses d'impôts folles, et on va taper sur les entreprises pour un impôt exceptionnel ». Un impôt exceptionnel sur les plus riches, sur les plus grosses entreprises, ça peut avoir du sens. Ça peut avoir du sens s'il y a une catastrophe naturelle. C'est-à-dire que si la moitié du pays est détruit par un ouragan, ça... Oui, les riches, là, doivent être mis à contribution exceptionnelle, parce qu'il y a une situation exceptionnelle.
Sur un déficit exceptionnel qui dure, ou qui dure
une fois, et sur lequel, et nous mettrons tous, d'ailleurs, et tous selon nos moyens, parce que nous ne sommes pas les plus démunis, nous comprendrons un impôt exceptionnel.
Mais pas de bêtises, les CSG-CRDS, c'était des impôts temporaires, mais existent 20 ans après, et qui ont augmenté de manière phénoménale.
Mais le mécanisme qui était de dire, on va faire un impôt exceptionnel pour compenser un déficit budgétaire exceptionnel, dont on ne connaît pas les raisons, puisqu'ils ont toujours pas trouvé où était. Alors, je peux leur en donner une petite, quand même. C'est-à-dire qu'ils ont eu un problème de recette fiscale. Ils ont eu un problème de recette fiscale parce que depuis 2023, notre pays est en ralentissement économique.
Oui.
Et en 2024, ça sera bien pire. Donc, en fait, ils auront moins de recettes. On peut déjà leur annoncer. Hein. Nous, petits entrepreneurs de terrain, on peut leur annoncer qu'en 2024, mars 2025, ils se rendront compte que les recettes sont moins bonnes parce que le pays est à l'arrêt. Est à l'arrêt économique.
Oui.
À un point... Sophie a raison, ils sont pas encore en train de licencier tout, ils ont arrêté. Et maintenant, ils préparent les licenciements.
Avec des
chiffres, juste, je vais en donner quand même un. Cet été, pendant que Lucie Castel faisait son tour de France, il y a un groupe anglo-hollandais, une multinationale, qui a expliqué qu'ils allaient licencier dans les bureaux, en Europe, 30% de leur personnel. Et, si vous voulez... C'est justement là où la technologie doit être bien maîtrisée, parce que sinon, ça va être une boucherie. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'on mélange de l'intelligence artificielle, puis de télétravail, tout. En fin de compte, tout ça permettait de licencier. On parle de licenciement de 30% dans les bureaux. Donc, arrive au pire, la dissolution est arrivée au pire moment qui pouvait exister pour notre pays, dans notre économie. C'est-à-dire au moment où on se posait des questions, au moment où arrivent des technologies, l'intelligence artificielle.
Oui, sauf qu'à chaque fois, en France, le problème qu'on a, c'est que justement, et vous l'aviez souligné tout à l'heure, en raison de cet étatisme dans l'imaginaire, qui n'est pas simplement dans les élites, hein, malheureusement, vous prenez l'intelligence artificielle, mais les biotech, on a exactement la même chose, et la nanotech, exactement la même chose, on pourrait multiplier les exemples, la robotique, etc., c'est que la France prend un retard considérable, tout le temps, tout le temps. Parce que justement, on ne laisse pas la liberté aux entreprises. Et moi, ce que je démonte, alors pour le coup, dans le dernier là, que je fais, qui va sortir en janvier, c'est que justement...
On l'a en avant-première.
Oui, là, aujourd'hui le bonheur, à la découverte du sens de la vie, oui. Il faut qu'on repense l'État en tant que tel. Qu'est-ce que c'est l'État ? Moi, j'ai une théorie qui est très particulière. C'est de l'État, l'État qui est précisément variable. J'appelle ça l'État variable. Ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, on peut admettre par moment qu'une une administration puisse intervenir un peu plus parce qu'il y a une énorme crise ou parce que, etc. Mais le principe de base, c'est que ce que les entreprises peuvent faire à la place de l'État, elles doivent le faire. On doit les laisser faire. L'entreprise, le décret de base, c'est ce que les individus peuvent faire à la place de l'État, il faut les laisser faire. Et ça, je pense que c'est la voie. Et vous voyez, moi, je suis frappé par ce qui se passe aux États-Unis, parce que je suis, bien sûr, en relation beaucoup avec mes collègues américains, notamment en sciences, puisque moi, je suis d'abord épistémologue, donc je travaille sur les sciences et les technologies, et je suis frappé par ce qui se passe là-bas. C'est qu'évidemment, il y a Trump qui a été élu, avant, il y avait Biden, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, justement, on n'attend pas de Washington, dans les entreprises, ce que dit Washington. C'est-à-dire qu'en fait, l'influence du centre est très faible. En raison de l'histoire américaine, qui tient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'histoire au Royaume-Uni, une influence anglaise pour le coup, et le centre est très faible. En réalité, les entreprises vont développer leur technologie, leur intelligence artificielle, Nvidia par exemple, etc. Ils développent leur intelligence, elles développent de manière libre, ou quasiment libre, et donc c'est la recherche continuelle, et c'est l'innovation. Et là, tu parlais de sous-consommation. On voit bien qu'on est toujours en sous-consommation parce que justement ça développe, de l'autre côté les consommateurs suivent et on n'est pas en train de dire oui mais il faut garder, hein, il faut conserver, pas du tout, c'est on jette le vieil ordinateur, on achète un nouveau, etc. Et ça c'est un véritable c'est une véritable oxygène, c'est de l'oxygène
ça,
pour l'entreprise.
Ça susciterait un débat sans fin.
Bien sûr,
ça,
ça se fera peut-être l'occasion d'une prochaine conférence éthique parce qu'on est au bout, surtout qu'on a une conférence intéressante.
En tout cas, je finis simplement sur le donc puisque le débat il portait notamment quand même sur les valeurs, l'éthique, etc. Mon livre justement, celui-là, c'est la suite du précédent, c'est l'idée que justement, voilà, j'ai essayé, après j'ai fait 3 ans de boulot, il y a plus de 700 références, mais facile à lire aussi comme l'autre, c'est une histoire donc, d'un vagabond qui se balade avec sa besace, voilà, bref, et à la fin, et puis je ne veux pas dire...
On ne va pas spoiler les
fin. Mais à la fin, l'idée c'est justement, voilà le sens de la vie, et ça rend joyeux, voilà, et ça rend joyeux.
Ça c'est vrai, il faut retrouver ce sens de la vie, mais, alors moi j'ai une consigne à donner en conclusion, c'est que Lionel, il faut envoyer laissez-nous bosser à tous les ministres nommés, Premier ministre, au gouvernement, le jour où ils sont nommés, laissez-nous bosser, il faut lui renvoyer.
Sophie, je l'ai envoyé.
Je le ferai avec
de votre part. Je l'ai envoyé à tous les ministres, à toute la France d'en haut, et avec horreur, je me suis rendu compte que c'est la France du milieu qui m'envoyait des messages en me disant merci monsieur, et c'était des retraités, des salariés, des jeunes.
Et pas de réaction
ça,
des politiques.
Et en haut, tout le monde s'en foutait. Et donc, je me suis rendu compte à partir... Et même, attendez, on le sait, puisque sur les... Il y a quelques chaînes de télé qui sont plutôt... qui veulent bien nous recevoir. Mais enfin, le service public n'a jamais voulu que je passe dans une émission, alors que le livre a fait un peu de bruit. Et donc, la France, du haut, trouve que quand il y a marqué un patron de PME, fait, c'est un côté un peu beauf, hein, là-dedans, et on ne l'invite pas. Mais il ferait
La philosophie, et c'est la philosophie de ce colloque, laissez-nous bosser, mais avec éthique.
Bien sûr.
Bien évidemment. Merci Lionel Roch, laissez-nous bosser. Voilà, à lire, mettre sous le sapin. Pourquoi pas. Il y en a également, alors pas encore pour le sapin, mais juste après, on aura bientôt aux éditions du CERF. Yves Rocotte, vous, c'est quelles éditions ? édition de l'Observatoire, tout à fait. Merci Sophie de Menton. On vous retrouve dans un instant, puisque vous avez eu un entretien il n'y a pas si longtemps avec Luc Ferry.
Le déclin, n'est pas là parce que voilà. Vous ne pouvez pas physiquement être là.
Mais vous avez débattu, le déclin est-il inéluctable ? On se quitte là-dessus.
Décidément, les philosophes, aujourd'hui, sont à l'honneur.
C'est vrai, ouais. Tout à fait. Et on se retrouve très prochainement, chers amis, pour une prochaine conférence éthique. À très bientôt.